Bienvenue, merci. Nous avons le plaisir donc d'accueillir Hélène Ménard, qui est, je ne sais pas comment on traduit, enseignante.
Professeur agrégé.
Professeur agrégé à l'Université McGill à Montréal, titulaire d'un doctorat de l'EPSI, et qui va nous parler de ses travaux, notamment sur le traitement d'image et la recherche d'image. C'est à vous.
Merci beaucoup. Alors, j'étais pour dire merci d'être venu en grand nombre, mais je ne vois pas vraiment l'utilité. Merci quand même d'être venu. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de deux projets de recherche que j'ai, sur lesquels je travaille depuis quelques années. C'est une continuation de mon doctorat. J'avais commencé à travailler sur les images. Alors, les deux projets que je vous présente aujourd'hui, c'est la suite normale, si on peut dire, de mon doctorat, qui traitait aussi des images. Alors, ce que je dois vous dire, pour commencer, en fait, c'est que pourquoi je travaille sur les images, c'est que je souffre d'une grande frustration qui est le fait que je suis incapable de dessiner. J'ai, en fait, à l'âge de 5 ans, j'ai probablement atteint mon niveau supérieur de dessin. En fait, je restais à l'art naïf, alors ça crée une grande frustration. Et ce que j'aime faire souvent, c'est de pouvoir illustrer mes propos. Alors, j'ai dû apprendre à chercher des images un peu pour combler cette frustration. C'était juste un passe-temps au début, mais c'est devenu mon sujet de doctorat et maintenant c'est le sujet de ma recherche. Je commence à m'intéresser un peu plus aux vidéos, mais mon sujet de prédilection, c'est les images fixes, en fait les images numériques. Et je vais vous expliquer, il y a quand même plusieurs sortes d'images. Je me consacre presque exclusivement à un seul type d'image. Donc, je vais rester un peu fidèle à mon texte, comme ça je ne vais pas rien oublier. Même s'ils ont évolué au fil des dernières années, les mécanismes donnant accès aux ressources visuelles telles que les images fixes demeurent toujours complexes à utiliser pour la plupart des usagers. De nombreux facteurs font obstacle à la recherche d'images sur le web, dont la surabondance des images disponibles, de même que leur indexation avec un vocabulaire incompréhensible ou trop spécialisé pour être utile. En outre, les requêtes textuelles formulées au moment du repérage d'images se heurtent à un autre genre de difficultés. En effet, les internautes ne chercheront pas nécessairement une même image avec les mêmes concepts, ni même avec les mêmes termes. Le processus d'indexation d'images devrait, en principe, offrir des points d'accès basés sur les attributs de l'image. En fait, il y a beaucoup de travaux de recherche qui ont été effectués afin d'identifier et de mieux comprendre ces attributs. Par exemple, plusieurs études entreprises au sujet de l'indexation du repérage d'images démontrent que la requête initiale pour repérer une image demeure toujours d'ordre textuel. Cette description textuelle doit prendre en compte le contenu visuel des images et aussi, dépendamment du type d'image, de l'interprétation du contenu également. Donc, comme je vous disais, je continue l'étude commencée lors de mon doctorat. Alors, j'avais une base d'images que j'ai indexée, que j'ai fait indexer en fait parce que j'ai engagé des indexeurs pour faire ça. Et je cherchais un vocabulaire qui serait idéal pour le type d'image que j'avais. Et puis, c'était vraiment difficile à trouver. Alors, ce que j'ai décidé de faire, en fait, mon premier projet de recherche, c'est vraiment de créer un vocabulaire contrôlé pour l'indexation des images, étant donné que tout ce que je trouvais ne me satisfaisait pas assez pour être utilisé. Alors, c'est sûr que idéalement, on ne veut pas toujours réinventer la roue, mais comme c'est un projet de recherche, je suis allée dans ce sens-là. Alors, j'ai étudié plusieurs possibilités. Je me suis arrêtée aux taxinomies. En fait, le cas des taxinomies est intéressant et assez récent. Ils apparaissent comme des outils puissants qui fournissent des informations utiles pour les indexeurs et les chercheurs d'images. Le développement de la taxinomie implique aussi l'intégration de divers points de vue du public, ce qui est aussi intéressant. Ça nous permet de rester fidèles aux gens qui vont éventuellement chercher les images avec leur propre vocabulaire et non pas le vocabulaire scientifique qui pourrait être aussi utile pour l'indexation des images. Comme je viens du Canada, c'est un pays qui fonctionne dans deux langues, le français et l'anglais. Alors, pour ajouter à la difficulté, j'ai décidé de créer une taxinomie bilingue. Et bon, je me suis aperçue qu'évidemment, toutes les difficultés qui venaient avec la création d'une taxonomie normale, on les multipliait par deux en introduisant une deuxième langue. Donc, c'est un processus plutôt coûteux et aussi qui peut être long et pénible. Mais ça, je ne savais pas avant de commencer, évidemment. Bon, ce que je vous disais au niveau des images, en fait, il y a comme une catégorisation qui existe. Selon Turner, on pourrait peut-être diviser les images en trois types. Les images d'art, qui demandent un traitement élaboré, qui inclut des niveaux d'interprétation différents que seulement le sujet. Et en fait, c'est une décision que j'ai prise au niveau du doctorat de ne pas travailler sur les images d'art, étant donné que je n'ai pas de formation comme historien de l'art. Alors, ça ne me donnait pas grand-chose de même si je trouve ça bien joli, ça aurait été difficile pour moi de savoir comment indexer ce type d'image. Le deuxième type, on parle d'image documentaire, qui demande un traitement qui privilégie l'utilisation d'une légende ou toute autre information supplémentaire afin d'identifier l'image au sein d'une collection spécifique. Alors, ça aussi, c'est intéressant, peut-être pour un prochain projet. Et l'image ordinaire sur laquelle je travaille, qui demande un traitement qui considère tout le contenu visuel de l'image, c'est-à-dire son sujet, plutôt que les métadonnées descriptives ou analytiques. Alors, la première base d'image que j'ai constituée au moment de mon doctorat, comme je n'avais pas beaucoup d'argent, il a fallu que je trouve une solution. J'ai écrit à des magasins pour obtenir l'autorisation d'utiliser leurs images que je voyais en ligne. Alors, des chaînes de grands magasins ont été approchées. Et la première chaîne de magasins qui m'a répondu s'appelle Canadian Tire, ou en français, le pneu canadien. Alors, c'est comme une grande quincaillerie qui propose toutes sortes de produits, des outils, des équipements de sport. Je ne sais pas exactement à quoi ça correspondrait ici, mais il n'y a pas de nourriture. Alors, c'est pas un carrefour, c'est plus petit. Alors, ils m'ont donné l'autorisation d'utiliser leurs images que j'ai récupérées et c'est sur lesquelles j'ai travaillé. Mais pour le projet que je vous présente, j'ai constitué une autre base avec une autre approche, mais je travaille encore sur l'image ordinaire. Donc, si on parle plus d'indexation, il y a plusieurs approches qui existent. L'indexation traditionnelle qui va utiliser des termes tirés de vocabulaire contrôlé comme les schémas de classification, les listes de vedettes matières, les thésaurus, les listes d'autorité et aussi on pourrait utiliser les dictionnaires visuels. C'est ce que j'ai fait avec ma base précédente. J'ai indexé avec un dictionnaire visuel. En fait, c'est simplement faire correspondre une image de la base à une image du dictionnaire. Ça fonctionne assez bien, en autant qu'on trouve la même correspondance entre les images. Sinon, il faut aller avec des catégories de plus générales, et là, le problème commence. Et définitivement, il n'y avait vraiment rien que j'ai examiné qui aurait pu correspondre comme bon vocabulaire d'indexation. Il y a beaucoup de vocabulaire qui existe pour les images artistiques, les images de peinture, de sculpture, mais c'est pas ce que j'ai dans ma base, c'est pas ce que j'avais dans ma base. On peut aussi indexer en vocabulaire libre, alors ça veut dire qu'on utilise ses propres mots pour l'indexation des images, ce qui permet en fait d'avoir un vocabulaire peut-être plus adapté à ce qu'on voit et non pas parfois des choix un peu fantaisistes des gens qui ont constitué les vocabulaires contrôlés. C'est intéressant ce point de vue-là. On a évidemment l'indexation automatique qui est utilisée plus particulièrement dans les systèmes de content-based retrieval dont je vous parlerai un peu plus loin pendant ma présentation. En fait, l'indexation se fait avec des caractéristiques qu'on considère de bas niveau, soit la couleur, la forme et la texture de l'image. Donc, je vous en parlerai un peu plus tard. Et on a aussi le nouveau phénomène, en fait nouveau, maintenant on parle de ça pour depuis une dizaine d'années, l'indexation sociale qui se fait par des non-experts. Alors c'est l'indexation que vous faites quand vous mettez vos propres photographies dans un média comme Facebook ou Twitter, ou si vous téléversez vos images sur un truc comme Flickr, vous allez utiliser vos propres mots et vous allez donner aussi la possibilité aux gens de continuer l'indexation avec leurs propres mots-clés. Peu de gens, en fait, si jamais vous en connaissez, je serais intéressée à les rencontrer, vont utiliser un vocabulaire contrôlé quand on met les photos sur Facebook. On y va au plus rapide, alors on ne va pas utiliser de vocabulaire contrôlé. Mais si vous connaissez des gens qui font ça, j'aimerais bien leur parler. Alors peut-être vous vous demandez quelle est la meilleure approche pour l'indexation. En fait, idéalement, c'est si on pouvait combiner plusieurs types d'indexation avec un vocabulaire contrôlé, avec le vocabulaire libre, un peu d'indexation automatique, ça serait idéal. Mais évidemment, si on multiplie les formes d'indexation, on multiplie aussi les coûts en termes d'humains qui vont effectuer l'indexation ou encore de programmation de machines. Donc, c'est impensable d'envisager une indexation multiple quand on parle d'un milieu comme une bibliothèque ou un centre d'archives. Donc, il faut choisir et vivre avec les conséquences de son choix. Donc, j'arrive au vif du sujet, le projet Tiara. Alors, le nom Tiara vient de Taxonomy for Image Indexing and Retrieval. Je m'excuse pour le titre anglais, mais comme je travaille presque exclusivement en anglais, c'est difficile d'avoir des acronymes qui fonctionnent dans les deux langues parfaitement. Alors, on va garder l'acronyme anglais pour le projet Tiara. Alors, trois phases pour ce projet, l'examen des meilleures pratiques, le développement de la taxonomie et des tests pour éventuellement affiner la taxonomie. Alors, je vous présente ces diverses étapes un peu plus en détail. Au début, en fait, c'est comme une exploration qu'on a fait. On a évalué 150 ressources, donc 70 collections d'images qui sont détenues par quatre types d'organisations, soit des bibliothèques, des musées, des moteurs de recherche d'images et des sites web commerciaux d'images aussi. Et on a considéré aussi des sites de partage d'images, donc 80 ressources, soit gratuites ou payantes. Et puis, en fait, le cadre qu'on a obtenu suite à cet examen nous a servi de base pour commencer l'élaboration de la taxonomie. L'étape suivante, c'était la constitution de la base d'images. Alors ici, pas d'images du catalogue de Canadian Tire. J'étais assis dans un restaurant avec une copine qui travaille pour une institution qui s'appelle Patrimoine Canada. Et c'est elle qui m'a suggéré cette idée de demander aux gens de me donner une copie de leurs images qu'ils ont à l'intérieur de leur caméra numérique pour constituer ma base d'images. Alors, j'ai trouvé ça fantastique comme idée parce qu'en fait, ça ne suppose aucun coût. Parce que quand on veut acheter, il y a des très belles images qui existent dans les bases comme Getty. Mais quand on essaie de sauver de l'argent, on a mieux trouvé des solutions un peu plus économiques. Alors, j'ai demandé aux gens de me donner une copie de leur image via des dons volontaires. J'ai 14 donneurs ou donateurs qui ont accepté de fournir une copie de leur photo. Ce qui a constitué le fond de ma base. Maintenant, j'ai 6015 images dans la base IDOL, images données librement. J'en avais beaucoup plus que ça, mais en fait, j'ai fait un petit ménage parce que, par exemple, les gens qui m'ont donné les images, beaucoup de mes compatriotes viennent, par exemple, à Paris, et sont en admiration devant la Tour Eiffel. Alors, on se retrouve avec 200, 300 photographies de la Tour Eiffel sous tous les angles. Alors, ce que je voulais privilégier dans IDOL, c'était plus la variété plutôt qu'un même sujet à multiples exemplaires. Donc, ça m'a donné une base de 6015 images. Ensuite, on a commencé l'extraction des concepts potentiels et les valeurs pertinentes. On a structuré la taxonomie avec la sélection des premiers et deuxièmes niveaux, donc catégorie et sous-catégorie. Et on a effectué un premier test d'utilisabilité pour voir si ça fonctionnait bien, pour valider. Et éventuellement, on savait qu'il y aurait encore du travail à faire sur la taxonomie. Alors, la première version de Tiara Bon, je vous disais, c'est un outil bilingue. Dans Tiara, la toute première version, il y avait 9 catégories principales que nous avons testées pour être sûr que ça fonctionnait bien. Et en fait, il y avait des problèmes qui sont apparus justement avec cette première phase de test. Ce qu'on a fait pour valider Tiara, on a utilisé la technique de ce qu'on appelle card sorting, en bon français, tri de cartes. Alors, cette technique donne aux participants la possibilité d'organiser le contenu de l'information de manière spécifique. La technique a également permis de confirmer que les premiers niveaux de la taxonomie correspondaient aux représentations mentales des futurs utilisateurs d'une base d'images ordinaire. Chaque catégorie de deuxième niveau a été imprimée sur des cartes à peu près le format d'une carte d'affaires. Les participants ont tous eu le même jeu de cartes. Dans leur langue maternelle, parce qu'on avait des participants de langue française et de langue anglaise. Les participants devaient lire les cartes et ensuite les classer en catégories qu'ils trouvaient qu'il y avait des similitudes. Et ensuite, on leur demandait de mettre une étiquette sur les cartes, sur chaque pile de cartes. Donc, autrement dit, reconstituer la taxonomie qu'on avait mis en norme, on leur avait donné dans le désordre. Alors, c'est là qu'on s'est aperçu s'il y avait des problèmes à la structure ou pas. On a aussi recueilli des commentaires via un questionnaire pour pouvoir justement faire les adaptations nécessaires. Donc, l'objectif de l'exercice de tri était de déterminer l'intelligibilité de chaque catégorie et sous-catégorie. Et cet exercice a aussi permis d'identifier des nuances entre les résultats de tri de cartes en français et en anglais, pour voir s'il y avait des erreurs de traduction ou même de problèmes dans la structure. Donc, dans l'ensemble, le tri de cartes a fourni une rétroaction intéressante permettant de clarifier la structure taxonomique. L'analyse des données a révélé moins de disparités que prévu entre les deux langues, français et anglais. Et après cette première phase de test, la taxonomie inclut maintenant 7 catégories de premier niveau que je vous présente. Alors, Tiara, nouvelle mouture, c'est maintenant fixe, 7 catégories de premier niveau. Et on a aussi continué le développement jusqu'à un quatrième sous-catégorie. En fait, c'est ce qu'on suggère pour les taxonomies, ce compte d'y aller avec environ 5 à 8 facettes ou catégories de premier niveau et pas aller trop en profondeur. En fait, si on a besoin de plus de profondeur, c'est peut-être qu'il y a un problème majeur dans la structure. Donc, on s'est vraiment arrêté à un quatrième niveau. En fait, c'est un projet qui n'a pas de fin. On pourrait continuer à développer Tiara autant qu'on veut, mais évidemment, il n'y a plus d'argent. Alors, on a fini le développement. La phase suivante, on a indexé toutes les images de la base IDOL avec Tiara et on a ensuite fait un test d'utilisabilité avec un échantillon représentatif de chercheurs d'images pour valider et finaliser les éléments de la taxonomie. Alors, au niveau de l'indexation, j'ai choisi 2 étudiantes de deuxième cycle, donc une de langue maternelle française et une de langue maternelle anglaise. Qui ont été choisis pour l'indexation. En fait, je venais tout juste de terminer de donner un cours d'indexation. Donc, j'ai choisi les meilleurs parmi ma classe pour effectuer la taxonomie. Je leur ai donné des consignes, une politique d'indexation plutôt restrictive. Ce qu'elles devaient faire, les deux indexeurs, devaient traduire le sujet principal de chaque image par un terme d'indexation tiré de Tiara. Donc, ils devaient aller choisir le terme le plus spécifique à l'intérieur de la taxonomie. Alors, quelques résultats en vrac. En fait, si on compare l'anglais au français, l'indexation en français et en anglais, on voit que la majorité des images ont reçu un terme d'indexation à partir de 3 catégories principales, soit vie quotidienne, objet, équipement et lieu. Et puis, bon, c'était peut-être un peu étrange parce que on n'avait pas mis de restrictions dans le choix des images au moment de la constitution de la base. Donc, on aurait pu s'attendre à ce que les images soient indexées, toutes les catégories soient utilisées également. Mais il faut croire qu'on avait de la disparité à l'intérieur de la base d'images. Les termes, en fait, de la catégorie idées abstraites et travail ont très peu été utilisés, de même que leur sous-catégorie. En fait, pour ce qui est d'idées abstraites, c'est sans doute normal parce que la politique d'indexation qu'on a donnée à nos indexeurs était de vraiment d'indexer le sujet et non pas l'interprétation de ce qu'on peut faire du sujet, qui est le niveau qui correspond au niveau iconographique identifié par Panofsky, qui est plus comme une évocation de ce qu'on voit sur l'image. Alors, on avait demandé aux annexeurs de ne pas aller là, mais ça a quand même été de temps en temps utilisé. Pour ce qui est de la catégorie travail, en fait, mon interprétation de ce que cette catégorie a été plus utilisée, c'est que c'est plutôt rare que les gens vont prendre des photographies des gens qui sont en train de travailler, ce qui définit la catégorie travail. Alors, j'en ai pas dans la base idole. Alors, c'est normal qu'on n'en ait pas identifié au moment de l'indexation. L'indexation en français, on a à peu près le même résultat. Vie quotidienne, objets, équipements et lieux ont été utilisés. Peu de catégories, peu d'images indexées avec la catégorie idées abstraites et travail. Par contre, l'indexeur francophone a utilisé plus la catégorie idées abstraites que l'indexeur anglophone, ce qui est aussi intéressant. Les deux indexeurs ont eu exactement les mêmes consignes. Faut croire que même avec une politique d'indexation en béton, il y a encore de la place à l'interprétation. En fait, c'est le drame avec les images. Une phrase que je refuse de dire, mais que je dis régulièrement, vous savez qu'une image vaut 1000 mots. On entend ça partout. Ben, c'est vrai aussi, même si on a vraiment des consignes claires, il y a beaucoup de place à l'interprétation avec le contenu des images. Donc, dans l'ensemble, les deux indexeurs ont attribué le même terme anglais et français à environ un tiers des images. Et aussi, 4546 images ont reçu un terme de la même catégorie, mais pas nécessairement à un même niveau hiérarchique. C'est important parce que, en fait, ça révélait que, d'abord, que la structure de tiers était assez claire pour la majorité des images, mais peut-être la profondeur n'était pas égale pour toutes les catégories. Alors ça, ça a été pris en compte pour le redéveloppement de Tiara. Et puis, en fait, l'indexation a révélé plus de problèmes de la politique d'indexation plutôt que de la structure taxonomique elle-même. Une autre comparaison qu'on a effectuée, c'est la hiérarchie qui a été utilisée. En fait, comme consigne, on avait donné aux indexeurs d'utiliser le mot le plus spécifique tiré de Tiara, alors en autant que faire se peut. Pour ce qui est de l'anglais, on note que la majorité des images ont reçu un terme d'indexation de niveau 3 ou de niveau 4, qui est le maximum de spécificité, les sous-catégories 3 et 4. Mais on a quand même 10%, 10,1% des images de la base qui ont été indexées avec des termes plus généraux. Alors, c'est vraiment là qu'il fallait combler les lacunes de Tiara. Parce que ça veut dire qu'on n'avait pas de termes assez précis disponibles. La même chose en français, on a aussi la majorité des termes d'indexation tirés de niveau 3 ou 4. Et ici, on a 11,7% de la base d'images qui a reçu des termes plus généraux. Donc, ça aussi a été pris en compte pour l'indexation, pour le redéveloppement de Tiara. On a demandé aussi aux indexeurs de tenir un journal et puis nous donner beaucoup de rétroactions du processus d'indexation et de l'utilisation de Tiara, puisque c'était les premières personnes à l'utiliser. Donc, ce qui en ressort, c'est que les indexeurs ont estimé que certaines images étaient plus faciles que d'autres à indexer. Par exemple, les images de style catalogue où on a seulement un objet qui apparaît sur l'image sont plus faciles à identifier et à indexer. Certaines images ont été signalées aussi comme presque impossibles à indexer, à identifier. Les indexeurs ont aussi ressenti une certaine frustration par l'absence d'informations contextuelles qui auraient pu les aider à identifier un sujet. Mais en fait, c'est la vie. Souvent, on se retrouve avec des boîtes de cartes postales sans beaucoup d'informations ou une boîte de photographies de famille. Il faut faire avec ce qu'on a. Alors, c'était un contexte similaire à un milieu de travail où on n'a plus d'informations. Autre perspective des indexeurs, certains termes d'indexation ont parfois été utilisés à mauvais escient. Malheureusement, certaines catégories, comme n'étaient pas assez développées, avec des sous-catégories, les indexeurs se sont retrouvés à devoir utiliser des catégories plus générales. Donc, c'est sûr que ce n'était pas l'idéal, mais ça aussi, ça arrive tout le temps. Quand on doit indexer avec un vocabulaire contrôlé, on ne peut pas y aller avec nos propres mots. Donc, on se retrouve avec choisir le meilleur des deux mondes. En fait, toutes les suggestions qu'on a reçues des indexeurs ont été, qu'on les considère, on les avait, c'est comme de l'or, parce qu'on les a considérés pour le redéveloppement de Tiara, pour être sûr qu'il y avait, toutes les lacunes seraient comblées. Suite à l'indexation, on avait une base, on avait des termes d'indexation attachés à chaque image. On a fait un test d'utilisabilité avec des participants, donc 30 participants de langue française et 30 participants de langue anglaise. Et on a choisi aussi un échantillon de 30 images à partir de la base IDOL au hasard. Toutes les images ont été montrées de manière consécutive aux participants et les participants devaient nous indiquer où dans la structure de Tiara on pouvait les retrouver, dans quelle catégorie ou sous-catégorie idéalement. Alors, voici deux exemples d'images qui ont été utilisées pour ce premier test avec des participants. Et on a évalué la performance de Tiara avec deux mesures d'utilisabilité qui sont recommandées par la norme 9241-11. Donc, l'efficacité qui se calcule en termes de succès, soit on trouve ou on ne trouve pas l'image. Et l'efficience, deux types d'efficience, l'efficience humaine qui se calcule en nombre d'essais pour repérer l'image et l'efficience temporelle, le nombre de secondes pour repérer l'image. Donc, quelques résultats rapidement. En moyenne, les participants anglophones ont correctement repéré 18,9 images sur 30 et les participants francophones ont correctement repéré 16,0 images sur 30. Au niveau de l'efficience temporelle, le temps utilisé pour retrouver les images, aucune différence significative entre les deux groupes de francophones et anglophones avec un temps moyen de 19 secondes. Et pour l'efficience humaine, en moyenne, les participants anglophones ont pris 1,58 essais pour repérer correctement une image et les participants francophones ont pris 1,6 essais pour repérer correctement une image. Donc, la phase ultime de Tiara, mise à jour de la taxonomie avec les commentaires reçus des indexeurs et aussi des participants. On avait quand même un petit formulaire à leur faire remplir, donc vous pouvez nous donner un peu de commentaires sur la structure de Tiara. On a réindexé les images de IDOL avec la nouvelle version de Tiara mise à jour et aussi avec une nouvelle politique d'indexation dont je vous parlerai un peu plus tard. Et on a intégré Tiara dans le moteur de recherche Sincerity que je vais vous présenter, qui est le deuxième projet de recherche. On a aussi utilisé un test, on a fait un test d'utilisabilité, mais le test d'utilisabilité combinait à la fois la performance de la taxonomie et du moteur de recherche. Donc, pour l'avenir, malgré le fait que certaines, on est bien conscient que certaines catégories, sous-catégories de Tiara ont encore besoin d'être retravaillées, Tiara est déjà un moyen efficace pour accéder aux collections d'images ordinaires, ce qu'on aimerait, mais évidemment, ça va prendre des sous. Inclure d'autres langues dans Tiara. En fait, je suis déjà en négociation pour une traduction en langue arabe. J'aimerais bien que ça se fasse probablement au cours de l'été. Et dans mes fantasmes, j'aimerais bien aussi pouvoir traduire Tiara en mandarin. Mais définitivement, je vais avoir besoin d'aide pour ça. Parce qu'en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a beaucoup de langues sur le web. Alors, il ne faut pas se contenter seulement du français et de l'anglais. Il faut pouvoir aussi inclure d'autres langues, puisque le web est multilingue. Et bon, en fait, en termes de contribution, Tiara est destiné à être un outil puissant pouvant être utilisé par les catalogueurs ou les indexeurs pour la description de tous les types de ressources visuelles. Et c'est déjà une structure taxonomique bilingue qu'on considère novatrice, qui donne la possibilité aux chercheurs d'images d'accéder plus facilement aux images indexées en français, mais aussi en anglais, qui demeure quand même souvent la langue qui domine le web encore aujourd'hui. Donc, suite à l'évaluation de Tiara par les chercheurs d'images, ce qu'on leur a demandé, c'est s'ils seraient intéressés de chercher des images avec cette structure-là à l'intérieur d'un moteur de recherche. Et comme on a reçu un accueil plutôt favorable à cette suggestion, c'est ce qu'on a pensé faire, justement d'inclure la taxonomie à l'intérieur du moteur de recherche qui a été développé en parallèle dans le deuxième projet de recherche que je vous présente à l'instant. Alors, je vais prendre une gorgée d'eau. Je m'excuse pour la voix. C'est un restant de grippe hivernale. En fait, on a la grippe chez nous de novembre à juin. C'est cyclique. expliquer. Est-ce qu'il serait juste possible, je suis pas sûre d'avoir compris, on n'a pas vu un panorama de Métis. J'ai retenu qu'il y a 7 grandes familles, oui, on va dire, principales catégories, et qu'ensuite vous déclinez avec 4 niveaux de spécificité. Oui. Voilà. Mais en tout, ça fait combien de catégories possibles ?
Sans compter les sous-catégories ?
Oui, c'est ça.
Je ne connais pas le nombre total, et puis il va falloir que je finisse pour obtenir cette information-là, parce qu'on me la demande souvent. Je ne pourrais pas vous dire.
Parce que par exemple, un thésaurus, on sait, un thésaurus, 5 000 mots, 30 000 mots.
Oui.
C'est vrai que c'est très important.
Je pourrais peut-être prendre votre question et vous envoyer la réponse par courriel, si vous voulez. Oui, je vais faire l'exercice pour vous dire, parce que c'est pas la première fois qu'on me pose cette question-là.
Ah oui,
par paresse, j'ai pas fait le compte. Même pour l'élaboration du moteur, la personne qui a développé le moteur m'a posé la même question, puis ma réaction était plutôt
complète. C'est un outil qui est fermé,
on veut dire, c'est
en fonction peut-être de.
C'est pas publié.
Thématiques d'images différentes, vous pourriez le développer, ou c'est volontairement délimité à ces catégories que vous avez définies là jusqu'à présent.
En fait, c'est une taxonomie qui a été développée pour pouvoir convenir à tous les types d'images, mais on pourrait difficilement indexer des images artistiques avec ce type de vocabulaire. Je crois qu'on pourrait y aller pour les images documentaires, c'est les images qu'on trouve dans les journaux, par exemple. Probablement qu'on serait capable, mais sinon, ça a été fait pas juste en fonction de la base que j'avais, ça a été fait plus dans une optique générale. Et on a essayé de garder aussi le vocabulaire au niveau que tout le monde peut comprendre, pas seulement des professionnels, des musées justement, parce qu'il y a beaucoup de vocabulaire qui existent qui sont plus imperméables pour les images artistiques, un vocabulaire qu'on ne comprend pas vraiment. Moi, je voulais m'adresser à monsieur et madame tout le monde. Donc, je prendrai votre question.
Merci.
Bon, je suis perdue. Alors, je vous présente maintenant le projet Sincérité. Alors, dans la continuation aussi, comme je vous disais, de mon doctorat, j'avais un petit moteur de recherche qui avait été conçu pour faire mon expérience. Alors, je me suis dit, peut-être, on pourrait se lancer aussi là-dedans, dans un programme de recherche, la création d'un moteur de recherche qui, pour les images, qui conviendrait vraiment aux gens, et non pas un moteur de recherche qui a été adapté pour les images, comme si je vous donne, par exemple, Google Images. Mm-hmm. C'est un sous-produit de Google qui fonctionne avec la recherche dans Google. Ça n'a pas été fait exclusivement pour les images. Alors moi, ce que je voulais, c'était vraiment un produit qui s'adresse aux chercheurs d'images. Alors, comme vous allez voir, avec les étapes que je vais vous présenter, j'ai parlé aux gens pour savoir ce qu'ils voulaient, ce qu'ils aimaient, et c'est ce que j'ai essayé de reproduire dans mon moteur de recherche. Donc, les chercheurs d'images font face à un double défi pour le repérage d'une image en utilisant une requête textuelle. D'abord, les termes de la requête doivent correspondre au texte associé à l'image. Et en fait, depuis les deux dernières décennies, plusieurs études ont été menées sur l'accès aux images. Et puis, ce qu'on s'aperçoit, en fait, c'est que ces études portent surtout sur le comportement de recherche des chercheurs d'images ou sur la performance des moteurs de recherche, et rarement les deux en même temps. On a peu d'études aussi qui ont porté sur les caractéristiques et les fonctionnalités des interfaces de recherche ce qui existe pour le repérage d'images. Alors, idéalement, un moteur de recherche d'images devrait être convivial, devrait pouvoir permettre de formuler des requêtes aisément et sans frustration au moment d'obtenir les résultats. Et évidemment, parce que ça fait partie de ma recherche, toujours travailler dans une optique bilingue. Alors, idéalement, avoir un moteur de recherche qui nous permettrait de chercher dans plus d'une langue. Donc, la première étape, si on regarde ce qui existe, on a des systèmes de repérage qu'on appelle plus traditionnels, qui fonctionnent avec la correspondance textuelle qui existe entre le mot-clé que vous allez écrire et le terme d'indexation. Donc, c'est les moteurs plus traditionnels. Et on a aussi les systèmes de repérage d'images basés sur le contenu de l'image, ce que je vous avais parlé un petit peu avant, Content-Based Image Retrieval, ces systèmes-là fonctionnent avec des requêtes non textuelles et c'est basé sur la correspondance qui existe entre les caractéristiques comme la couleur, la forme et la texture de ce qu'on voit sur l'image. Alors, plutôt qu'initier votre requête avec un mot-clé, vous allez faire votre requête avec un dessin ou encore vous allez chercher avec une image et vous demandez au système de trouver une image similaire. Et si on regarde ce qui existe en termes de repérage d'images en contexte multilingue, en fait, l'inclusion d'un mécanisme de traduction est essentielle. Les différentes ressources linguistiques qui existent, par contre, ont tous leurs avantages et leurs limites. Et quand on parle d'un système de traduction automatique qui est introduit à l'intérieur d'un système, bon, c'est certain qu'il y a une dizaine d'années, c'était vraiment les premiers balbutiements de la traduction automatique. Maintenant, c'est mieux que c'était, sauf qu'il reste que les requêtes qu'on fait dans un système de repérage, peu importe le système qu'on utilise, on va utiliser très peu de mots, 2 à 3 mots, selon les études, pour faire sa requête. Alors souvent, si vous voulez traduire ces mots-là, ça ne donne pas assez de contexte au système pour bien les traduire. Alors, ce qui fait que, au moment, si vous utilisez votre traduction que vous avez obtenue par un mécanisme de traduction automatique, les résultats sont partent dans tous les sens. Donc, le projet Sincerity, le deuxième projet, Search Interface for the Retrieval of Images with a Taxonomy, 4 phases ici, identification des caractéristiques et fonctionnalités qui existent pour le repérage d'images, examen de l'utilité de ces caractéristiques et fonctionnalités qui sont disponibles dans un contexte bilingue. Ensuite, la modélisation de l'interface de repérage d'images et les tests d'utilisateurs afin de valider et affiner les composantes du moteur. Alors, la première phase, ce qu'on a vraiment regardé, c'est qu'est-ce qui existe. Encore une fois, on voulait acquérir des connaissances sur ce qui existait en termes de fonctionnalités et évaluer comment celle-ci pourrait être peut-être intégrée dans le développement de notre moteur éventuellement. Donc, on a examiné encore un ensemble de ressources traditionnelles comme les bibliothèques, les musées, les moteurs de recherche et sites de téléversement d'images, les sites commerciaux, encore une fois, de photographie. Et on a aussi examiné les ressources non traditionnelles comme les systèmes de content-based image retrieval. Alors, ce qui ressort de ce premier examen, en fait, en termes de ressources traditionnelles, ils offrent des fonctionnalités de recherche par mots-clés, pour la plupart. On a aussi des fonctionnalités qui permettent d'affiner les résultats qu'on obtient, soit par la taille de l'image, la couleur, le type de contenu. Ça fonctionne relativement bien. Et on a parfois des fonctionnalités de soutien linguistique, mais c'est bien caché, c'est pas nécessairement automatique avec la recherche d'images. Les ressources traditionnelles aussi limitent les utilisateurs à la formulation des requêtes dans une seule langue, donc offrent un mécanisme de traduction automatique en plusieurs langues. Et, bon, en fait, vous êtes responsable de votre traduction. Donc, je vous donne un exemple. Vous voulez chercher des images de chiens sur Google Images. Vous allez taper « chien » dans la boîte de recherche. Vous obtenez un ensemble de résultats. Vous voulez changer un peu les résultats. Vous allez peut-être « je devrais peut-être chercher dans une autre langue ». Alors, vous connaissez le mot « dog », l'équivalent anglais. Vous allez le taper et vous obtenez un autre ensemble de résultats. Vous voulez continuer l'exercice en allemand, en italien, en chinois, en cerveau croate. Vous êtes responsable de la traduction. Rien ne se fait automatiquement pour l'instant de chien à dog à toutes les autres langues. Alors ça, c'est, je vais dire que ça m'énerve personnellement, mais il y a plus de gens qui sont aussi énervés par ça que moi, malheureusement. Mais enfin, c'est ça. Encore une fois, mon sujet de recherche est privilégié. Et si on regarde au niveau des ressources non traditionnelles, bon, c'est ce que je vous disais, les CBIR, possibilité de sélectionner ou importer une image pour chercher une ou plusieurs images similaires. On peut aussi sélectionner un URL pour initier la recherche d'images, ou encore dessiner et repérer des images similaires au dessin, ou encore chercher par couleur ou par forme. Alors, si vous avez du temps, vous pouvez chercher ces systèmes de CBIR qui existent en ligne, ce sont des prototypes qui disparaissent régulièrement parce que ce sont des systèmes qui sont faits par des, des doctorants qui ont de l'argent, puis tout d'un coup, n'en ont plus, ou ont finalement gradué. Alors, les systèmes ne sont pas mis à jour. Il y en avait un qui, justement, nous permettait de chercher en faisant un dessin. Bon, alors, je vous fais part de cette anecdote personnelle. J'ai dessiné un chien dans la boîte de recherche et j'ai obtenu des vaches. Alors, pour quelqu'un qui ne sait pas dessiner, ce n'est pas encore la solution, ce qui est mon cas. Puis l'autre système que j'ai utilisé, la recherche par couleur, ça fonctionne, mais faut pas être pressé. Alors j'avais aussi trouvé un prototype de système qui permettait la recherche par couleur. Avec une base d'images reliée à ce système-là qui était quand même assez fermé, on pouvait savoir à peu près ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc on pouvait commencer avec une couleur et savoir qu'éventuellement on arriverait au résultat. Alors dans la base d'images, il y avait des photographies de Jennifer Aniston, l'actrice. Alors j'ai commencé à chercher par la couleur de ses cheveux, qui étaient à l'époque plutôt blonds. Mais avant d'arriver à Jennifer Aniston, j'ai trouvé beaucoup de labrador, de golden retriever. Alors si vous n'êtes pas pressé, ça va. Si vous n'avez pas une idée concrète de ce que vous cherchez, ça fonctionne. En fait, il faut être patient, c'est ça. Et pour la forme, ça fonctionne un peu mieux qu'avant. Surtout maintenant, les téléphones, par exemple, les téléphones intelligents peuvent reconnaître la forme du visage et peuvent dire que c'est un membre de votre famille. Alors ça, ça fonctionne de mieux en mieux. Mais ce n'est pas encore tout à fait au point. Donc, le repérage de ce système-là, basé sur les caractéristiques physiques de bas niveau. C'est intéressant dans le cas du furetage, lorsqu'on les chercheurs d'images n'ont pas une idée claire de ce qu'ils cherchent, et c'est prometteur malgré quelques défaillances, plusieurs faiblesses, la facilité d'utilisation, la pertinence des résultats, et aussi la vitesse d'exécution du repérage. Donc, la phase 2 du projet Sincerity, on avait déterminé ce qui existait déjà. Là, on s'est dit, on va parler avec des gens pour savoir ce qu'ils veulent, ce qu'ils aiment. Donc, on voulait déterminer quel type de requête était utilisé pour le repérage d'images, quelle fonctionnalité est aussi utilisée pour le repérage d'images, qu'est-ce qu'on considérait comme utile. Et on voulait voir aussi s'il y avait des différences dans nos deux groupes de participants, du groupe linguistique francophone et anglophone. Donc, on a effectué un sondage, un questionnaire bilingue a été dessiné, français et anglais. On avait 20 répondants anglophones et 20 répondants francophones. On avait 27 questions fermées et 8 questions ouvertes. Et on a aussi fait quelques entrevues avec des gens qui avaient répondu à notre sondage. Donc, des entretiens dirigés, enregistrés, retranscrits, codés par deux évaluateurs. Et bon, les réponses ont été regroupées et analysées de façon à ressortir les thématiques, ce qui revenait le plus régulièrement. Alors, quelques résultats. On a identifié évidemment plusieurs difficultés rencontrées lors de la recherche d'images. Ce qu'on s'est aperçu, évidemment, forte dépendance des participants envers le repérage d'images par mots-clés. En fait, tous les gens à qui on a parlé cherchent leurs images avec des mots-clés. Peu de gens étaient au courant qu'on pouvait chercher avec un dessin ou avec une image. D'ailleurs, quand je parlais de ça aux gens, tout de suite, il y avait un intérêt, mais quand ils voyaient comment ça fonctionnait, il y avait moins d'intérêt. Aussi, une préférence pour la recherche à l'aide de diverses métadonnées textuelles et, bon, au début, un petit peu d'intérêt, mais finalement, quasi absence d'intérêt pour la plupart des méthodes de recherche basées sur le contenu, couleur, forme et texture. Les recherches d'images se font presque exclusivement dans un contexte monolingue, évidemment. Donc, si on est francophone, on va chercher presque exclusivement en français, et ainsi de suite, en anglais, on cherche en anglais. C'est certain que si on connaît plusieurs langues, on sera peut-être plus tenté de l'expérience, mais finalement, c'est que les gens savent très peu de choses sur la possibilité de repérer les images associées à des mots de langues différentes. Et puis, en fait, il y a plusieurs raisons qui pourraient expliquer ça. Les gens ne savent pas qu'en utilisant un mot de notre langue, ça va changer les résultats. Il y a des participants aussi qui connaissent carrément pas les systèmes de traduction automatique. Et il y en a aussi qui nous ont dit qu'ils n'avaient vraiment pas confiance aux résultats des systèmes de traduction automatique. Donc, il aimait encore mieux choisir de traduire avec un dictionnaire. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Et en bref, en fait, suite à nos entrevues et notre sondage, on s'est aperçu, beaucoup de gens ne savent vraiment pas comment chercher des images. Ils ont de la difficulté à formuler des requêtes qui les mènera à l'image qu'ils recherchent. Par contre, quand on leur a demandé justement s'ils aimeraient utiliser une structure comme une taxinomie, on a eu beaucoup d'intérêt. Alors, ce qui nous a incité à vouloir inclure la taxinomie à l'intérieur du moteur de recherche. Donc, la phase suivante, la modélisation d'interface, on a pris ce qu'on avait trouvé de notre étude de ce qui existait au préalable. Les principaux moteurs de recherche qu'on a examinés offrent des fonctionnalités similaires pour la recherche d'image. Donc, on n'avait pas vraiment besoin, encore une fois, de réinventer la roue. On avait peut-être juste à reproduire ce qui existait déjà. Diverses fonctionnalités aussi sont disponibles pour affiner les résultats. Il y avait des moteurs qui offraient des mécanismes intégrés de traduction, mais un peu cachés. Et à ce moment-là, les utilisateurs sont responsables, comme je vous disais, d'effectuer les traductions ou pas de leur requête. Ce qu'on a vu aussi, quand on a parlé avec des futurs utilisateurs, des futurs chercheurs d'images, c'est qu'on a vraiment, vraiment des gens qui sont habitués de chercher avec Google. En fait, une des premières questions qu'on a posées, c'est avec quel moteur de recherche vous cherchez les images. Et tous les participants ont dit Google Images. Et si on allait plus loin, on leur demandait s'ils étaient capables d'en identifier un deuxième moteur ou une deuxième source pour chercher des images. Très peu de participants étaient capables de répondre. Alors, ça dit un peu, ça en dit beaucoup sur le comportement des chercheurs d'images. Les chercheurs d'images aussi, utilisent les mots-clés pour formuler leur requête, mais comme je disais, ils sont intéressés, ou en tout cas, au moins, seraient prêts à essayer de chercher avec une structure classificatoire. Et comme on avait noté le désintérêt pour les chercheurs d'images à utiliser des mécanismes de CBIR, on a décidé pour la première mouture du moteur de recherche de ne pas inclure ce genre de mécanisme à l'intérieur. Donc, sincérité est basée sur l'interface simple, parce que c'est ce qui revenait toujours. Les utilisateurs aiment une boîte où ils écrivent leurs mots-clés, et on ne va pas plus loin que ça. On a incorporé évidemment la base d'images de moyenne dimension qu'on avait. C'est un peu surprenant pour les gens qui sont justement habitués de chercher avec Google Images, qui obtiennent des millions de résultats. On n'avait pas grand-chose dans la base, 6015 images, mais une fois que les gens ont compris le principe que c'est une base fermée, je crois que ça allait de soi de ne pas avoir beaucoup de résultats. Les images, évidemment, étaient indexées de manière bilingue. On a donné la possibilité de chercher avec la taxinomie Tiara et on a également inclus un mécanisme de traduction des requêtes en français et en anglais. Et évidemment, l'interface est mise en français et en anglais. Donc, pour le moteur de recherche, on a privilégié l'utilisation de logiciels libres en raison de leur faible coût d'utilisation. Et aussi, c'est facile de pouvoir évaluer et développer nos propres solutions avec ces types de logiciels-là à moindre coût. L'intérieur du moteur, je vais passer rapidement parce qu'en fait, je n'y connais rien du tout. Si jamais vous avez des questions précises sur l'intérieur du moteur de sincérité, je prendrai vos questions aussi en note et il me fera plaisir de les donner à mon concepteur qui pourra lui répondre à ces questions-là. Parce que moi, je lui ai dit ce que je voulais et puis lui a conçu le moteur. Alors, l'intérieur, je ne connais strictement rien. Mais par contre, je peux vous montrer la première... interface de recherche, c'est l'interface en anglais du moteur de sincérité. Alors, ce qu'on voit sur cette diapo, vous avez la boîte de recherche et aussi la taxinomie qui a été inclue. Donc, on peut initier la requête soit avec un mot-clé ou encore en cherchant à travers la taxinomie. C'était la première version de sincérité. Recherche par mot-clé, recherche avec la taxinomie et on avait la possibilité de traduire la requête en dessous de la barre de recherche Translate Query to French ou encore on peut changer l'interface de français à anglais Évidemment, il a fallu tester notre moteur de recherche afin de mesurer bon, l'efficacité et l'efficience. Encore une fois, est-ce qu'on trouve les images et est-ce qu'on les trouve rapidement et en peu d'efforts? On voulait aussi s'assurer que le moteur était clair et complet, cohérent. Donc, ce qu'on a fait pour le premier test de sincérité, on voulait vérifier sa performance et aussi peut-être recueillir des commentaires, des suggestions de la part des utilisateurs. Alors ici, c'était un premier test, donc on a un petit échantillon, 20 participants, 10 francophones et 10 anglophones. Encore une fois, un échantillon de 30 images différentes, puisées au hasard dans Idol, et un questionnaire toujours avec des questions ouvertes et fermées pour recueillir les commentaires et suggestions des participants. Alors, quelques résultats. D'abord, des résultats qui ont rapport avec le moteur de recherche. Ce qu'on a recueilli, certains participants ont souligné le manque de convivialité, de sincérité. Un commentaire, la conception et l'esthétique pourraient être améliorées avec plus de couleurs, par exemple pour le rendre plus attrayant aux utilisateurs. Certains participants ont aussi éprouvé des difficultés avec l'affichage des résultats. Alors, on a tenu ça en compte pour le redéveloppement du moteur. Au sujet de la taxinomie, il n'est pas clair si la taxinomie Tiara a été appréciée par les participants et considérée comme une bonne alternative à la recherche par mots-clés. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a peut-être encore des problèmes avec... au moment du premier test, c'était la première version de Tiara avant la mise à jour. Et c'est probablement là qu'était le problème, l'indexation, et non pas la performance du moteur elle-même. Donc, on a tenu ça en compte également pour la suite du projet. Pour la recherche bilingue, je dois dire que pour la première phase d'évaluation, on n'a pas vraiment testé la première phase, l'utilisation de l'interface bilingue, mais on a quand même des participants curieux qui ont joué avec le moteur et qui ont vu que c'était possible de chercher en français ou en anglais et qui ont trouvé cette fonctionnalité-là plutôt intéressante. Donc, plusieurs améliorations ont été apportées à Sincérité suite à cette première phase d'évaluation. On a retouché un petit peu l'interface de recherche. On a aussi modifié l'affichage des résultats suite aux commentaires reçus. On a intégré la taxinomie Tiara mise à jour. Et évidemment, toutes les images ont été réindexées avec la taxinomie mise à jour. Et aussi, les indexeurs qui ont réindexé les images ont reçu de nouvelles consignes. Et parmi ces consignes-là, on leur a donné la possibilité d'utiliser plus d'une catégorie de Tiara pour l'indexation des images. Ce qui fait que la même image pouvait se retrouver à deux endroits dans la taxinomie. Donc, on avait plus de chances de retrouver l'image. En fait, c'est un choix qu'on avait fait au moment de la première indexation et c'était peut-être pas le plus judicieux, mais encore une fois, il faut vivre avec ses erreurs. Donc, ça en était peut-être une qu'on a corrigé par la suite. On a aussi ajouté des notes d'application, alors ce qu'on appelle scope notes, en autre terme anglais, mouse over, je ne sais pas comment on dit ça. quand on passe la souris sur la taxinomie, je vais vous montrer. En fait, on peut voir les petites boîtes qui s'affichent pour expliquer ce qu'il y en est de la définition des catégories, sous-catégories. Ça, c'est l'affichage des résultats. Comme vous pouvez voir, on a enlevé les mots qui étaient sous les images par choix. Peut-être que ce sera quelque chose qu'on remettra par la suite, mais pour l'instant, on ne garde que les images. Et ça, c'est juste une copie, une capture d'écran du moteur. Quand on passe la souris aussi sur les images, ça grandit, donc on peut voir plus en détail. Donc, la phase ultime, une deuxième phase d'évaluation est présentement en cours. En fait, au moment où je vous parle, j'espère que ça se passe maintenant. Ça devait avoir lieu à l'automne. Malheureusement, on a eu un automne un peu chaud. Mon doctorant qui devait faire la collecte comme une petite abeille, et puis il prend trop de projets, alors j'ai pas pu le faire travailler. Et moi, j'ai des prix dans l'enseignement, alors j'ai pas vraiment pu m'occuper non plus, mais on va faire ça dans les semaines qui viennent. Donc, c'est prévu un échantillon de 60 participants, francophones et anglophones toujours. On aura réparti ces participants-là dans 6 groupes. Donc, on va donner 2 groupes, français et anglais, la possibilité de chercher seulement avec les mots-clés, 2 autres groupes seulement avec Tiara, et les 2 autres groupes auront le choix d'utiliser la boîte de recherche ou Tiara pour initier la requête. Encore un échantillon de 30 images et les résultats sont à venir. Pour l'avenir, bon, c'est pareil pour Tiara. J'aimerais bien inclure d'autres types d'images, peut-être artistiques, peut-être documentaires, et définitivement d'autres langues à l'intérieur de Sincérité, de manière à faire passer le moteur de bilingue à multilingue. Et qui sait, peut-être on mettra aussi des fonctionnalités qui vont permettre d'initier les requêtes avec d'autres choses que des mots. Peut-être la couleur, la forme et la texture, bien que je ne suis pas personnellement convaincue que ça fonctionne bien et que c'est utile pour tous. En termes de contribution, le repérage d'images inclut une structure taxonomique qu'on ne voit pas nécessairement partout. Google Images, vous n'avez pas cette possibilité-là de chercher avec une structure, ou s'il y en a une, c'est caché. Pour les chercheurs d'images unilingues aussi, Sincérité offre la possibilité de chercher en deux langues. Alors, si on n'est pas familier avec l'anglais, ça peut être utile. En conclusion, l'idée d'intégrer la taxonomie pour faciliter le repérage d'images a été suggérée par de nombreux participants au projet. Donc, on a profité de cette rétroaction-là pour l'introduire dans le moteur. Très peu de moteurs utilisent les structures taxonomiques. Et très peu de moteurs aussi utilisent la recherche bilingue. Alors, qui sait où Sincérité sera dans un an, dans deux ans. On continue le projet. Tiara est maintenant terminé, mais Sincérité, on continue le développement. Et voilà. Alors, si vous avez des questions, ça me fait plaisir d'y répondre.
Merci beaucoup. Alors, moi, j'avais une question sur dans quelle mesure le système Sincérité pourrait être un système apprenant. C'est-à-dire qu'en fait, si on considère une séquence de recherche d'images d'un individu de l'échantillon, il va saisir un mot, faisons cette hypothèse-là. Par mot-clé, il va saisir un mot, il va avoir une liste d'images s'afficher. Et en fait, en fonction des réactions qu'il va avoir par rapport de la séquence d'après, par rapport à ces premières listes de résultats, est-ce qu'on ne pourrait pas évaluer le niveau de satisfaction de l'utilisateur par rapport à ça? C'est-à-dire que s'il remet un autre mot-clé, on peut considérer que, on peut faire l'hypothèse que le premier mot-clé n'était pas forcément le bon. Mm-hmm. S'il clique sur une image, on peut considérer que cette image, a priori, semble l'intéresser par rapport à sa recherche. Du coup, globalement, il y a tout un tas de traces et de pratiques que le système pourrait enregistrer et utiliser ensuite pour évaluer.
En fait, c'est super intéressant. Je vais noter ça. Si c'est possible, ce serait intéressant de pouvoir faire justement l'indexation automatiquement avec les suggestions des utilisateurs.
Ce qu'ils nous disent quelque chose, en fait. En bibliothèque, ça va être la même chose. On pourrait utiliser la même chose, c'est-à-dire le niveau de près de certains ouvrages et à mon avis fonction de l'endroit où ils seront rangés, de leur mode d'indexation. C'est-à-dire qu'il y a des ouvrages qui sortent pas juste parce qu'à un moment ou un autre on a dit ils sont là et pas ici. Et dans les pratiques d'usage des catalogues par les gens dans les bibliothèques, on pourrait avoir la même chose, c'est-à-dire le fait que tel mot-clé ne donne jamais lieu au visionnage d'une notice, mais donne tout le temps lieu à la saisie d'un deuxième mot-clé. Une forme d'apprentissage. Alors, mon autre question, c'était par rapport à Google Images, justement, et à cette confrontation un peu entre... Aujourd'hui, dans Google Images, le système est basé uniquement sur les mots-clés associés au fichier image que Google a indexé. C'est ça ? Aucun autre traitement qui est fait.
Il y a dans Google Images maintenant des catégories qui me semblent un peu étranges. Je sais même qu'ils sont encore là. Comme il y avait justement, je donne toujours le même exemple. Si on cherche chien, il y avait des catégories qui apparaissaient au haut de la page de résultats. Oui. Chien méchant, chien dangereux, chien fâché. C'est pas la même chose. Alors comment on peut identifier si le chien est fâché ou dangereux? Alors c'est une fonctionnalité qui existe dans Google Images, mais je ne sais pas d'où ça vient. Alors c'est un genre de catégorisation justement, mais c'est basé sur quoi? J'ai pas réussi à comprendre que, comment on pouvait dire qu'un chien était dangereux, puis un chien, puis aussi la taille des chiens. Il y avait des catégories petit, moyen, gros chien. Mais ma définition d'un petit chien est peut-être différente de la vôtre. Donc, comment on peut se dire que c'est un petit chien par rapport à un gros chien?
Google le peut.
Oui, mais j'aimerais bien savoir comment ils font ça. Mais ça, les secrets de Google, ça reste à Google. Oui?
Je vous prie de m'excuser, j'étais en cours. Donc
pas de problème.
Juste à la fin. J'ai quelques questions parce que j'étais pas là, donc j'ai posé des questions naïves. Et parce que j'essaye de faire l'indexation d'images, de photos, et pour être cru, j'y arrive pas. Et du coup, je vais essayer d'avoir des questions auxquelles vous avez sûrement déjà répondu. C'est en termes de coûts et d'investissement. Ça veut dire que d'abord, vous dites, bon, on utilise des logiciels libres, mais des 3JS, JSON, etc., ça se programme et pour quand même de la compétence et du salaire. Et le gros problème que moi j'ai au niveau de l'indexation d'images, il est un peu double. Le premier, c'est que ça prend un temps fou.
Vous parlez de l'indexation humaine ou l'indexation automatique?
J'ai plutôt tendance à la considérer comme humaine, mais je pense que même automatisée, ça peut. Oui, sauf s'il y a de la reconnaissance.
C'est l'indexation humaine, c'est définitivement long et pénible.
Et alors, l'autre problème que j'ai, je ne sais pas ce que vous avez comme solution dans des systèmes de base de données bien plus sophistiqués que ce que j'essaie d'utiliser, c'est que moi j'utilise des systèmes d'indexation dans l'image. Vous avez des outils comme ExifTool qui vous permettent de taguer l'image de manière interne. Et le problème, c'est que dès que vous recadrer l'image dès que vous changez sa taille ou que vous la trafiquez avec un autre logiciel, vous avez la moitié des informations qu'ils ont perdues.
Mais parce que moi, je m'occupe plus du sujet. Comment vous pouvez obtenir vos sujets avec justement les métadonnées qui viennent de votre caméra, j'imagine?
Oui, mais c'est celle qui ne marche pas.
Oui, c'est ça.
Globalement,
ça prend. Bah,
c'est les IPTC. On parle des IPTC.
Oui, alors il y a les IPTC, mais je peux mettre ce que je veux maintenant dans une image. C'est-à-dire, prenons un exemple tout simple, je peux tout à fait définir, savoir si une image, d'abord je vais donner une thématique, deuxièmement, est-ce qu'elle est plutôt à fonctionnalité pédagogique ou éventuellement artistique, est-ce qu'elle est, je considère qu'elle est privée, c'est-à-dire c'est...
Donc c'est votre propre système de...
Voilà, c'est mon propre système.
C'est ça, que vous allez être le seul à comprendre.
Comment?
Vous allez être le seul à comprendre votre système.
Ouais, éventuellement, je peux en donner, je peux en proposer l'architecture, mais je pense que les systèmes se ressemblent pas mal quand même. Quoi. C'est-à-dire, à un moment, on bute toujours sur des questions. Mais, alors, vous allez peut-être me répondre que si vous utilisez les systèmes d'indexation automatique et si vous avez assez peu d'images, le problème...
Je ne travaille pas avec l'indexation automatique, justement parce que je... La base, parce que vous n'étiez pas là, j'ai fait une taxinomie, un vocabulaire contrôlé pour l'indexation. Mmh. Et puis, pour l'instant, c'est juste l'humain qui peut utiliser ce vocabulaire-là pour... puis, c'est pour le sujet. Bon, c'est sûr que si j'avais un volume plus grand que 6015 images dans ma base, là, j'aurais un problème. Puis, c'est pour ça que Google Images ne peut pas se permettre d'avoir un humain qui va indexer les images au nombre d'images qu'ils ont.
Et ça vous prend quoi, une heure par image d'indexation?
J'espère que non. j'avais une équipe d'indexeurs et puis je leur avais donné quand même un temps limité. J'en ai fait un peu d'indexation, mais je ne voulais pas contaminer mes données. Ouais. Je ne voulais pas en faire trop. Puis c'est un système. Il y a le temps que vous prenez à apprendre le vocabulaire que vous utilisez, mais une fois que vous savez qu'est-ce qu'il y a dans votre vocabulaire, Ça va quand même assez rapidement. Je dirais pas plus qu'une dizaine de minutes par...
N'importe quoi.
Oui, c'est ça. Mais si vous en avez des boîtes ou je sais pas, des fichiers remplis d'images, il faut trouver une façon de faire ça automatiquement. Alors peut-être l'avenir du projet Sincérité, ça sera peut-être justement d'inclure une façon de prendre la taxinomie et d'indexer automatiquement les images. Mais c'est trop informatique pour moi, ça. Ça va me prendre une équipe qui est capable de faire ça pour moi, c'est ça. Moi, je suis plus du côté indexation humaine. C'est ce que j'enseigne, donc c'est là-dedans que je travaille.
Et vous avez combien de développeurs?
Pour l'instant, ils sont plutôt en dormance, j'en ai deux.
Moi, j'avais une question sur l'utilisation d'un tri par carte dans le, pour valider la taxinomie proposée. Du coup, je trouve que ce qui est intéressant dans le tri par carte, dans l'approche tri par carte, c'est qu'on a une approche. Enfin, on essaie de partir de la perception de l'usager de la collection pour voir dans quelle mesure la structuration proposée correspond ou pas. Est-ce qu'il existe des outils d'index, des outils de recherche d'images dans lesquels une fonctionnalité de tri par carte serait proposée et permettrait une forme, on va dire, d'indexation sur la base d'une taxinomie, mais mise à disposition de l'usager. C'est-à-dire que dans le cadre d'une recherche, on pourrait imaginer que l'usager organise les résultats qu'on lui propose selon la grille de taxinomie qui lui est fournie en même temps. Que ça soit pour lui à titre individuel ou que ça soit globalement pour lui permettre de dire dans ma recherche d'images, celle-ci je la garde, celle-ci je la garde, et que du coup on puisse associer le terme de recherche à un ensemble d'images constituées par l'usager cette fois-ci.
Pas à ma connaissance.
Mais là, il y a peut-être un petit autre chose qui rentre en jeu, c'est le point de vue ou la problématique qui fait que la personne va chercher une certaine image.
Ah oui.
Moi, je travaille en fait à l'ENS de Lyon sur une photothèque qu'on est en train de monter, qui va sortir en mars. Mais évidemment, bon, là, ce sont plutôt des photos scientifiques, dites scientifiques, mais en même temps, on a du réel à l'image. Donc, c'est bien là où on voit que selon ce qu'on anticipe de la personne qui va chercher l'image, on ne voit pas la façon de les chercher de la même façon. Et je suis confrontée à quelque chose qui se rapproche aussi de votre sujet, puisque on a choisi un logiciel propriétaire qui est un grand truc, c'est Armadillo. C'est vraiment un logiciel qui est fait pour mouliner des milliers de
photos de Getty.
Oui, c'est un système puissant. Hein. Il y a des
photos
comme la RATP, comme Clarins, comme Peugeot qui vont l'acheter. Et c'est vrai que, en réfléchissant en amont à tout ça, évidemment, on a évidemment choisi d'indexer avec des mots-clés, des thésaurus, parce qu'on sait, moi je suis documentaliste à la base, voilà, ça, c'est faire. Mais après, en plus c'est des fonctionnalités d'Armadillo, c'est pour ça qu'on l'a choisi, c'est qu'il propose des taxinomies, comme ce que vous avez mis en place. Et en fait, du coup, je réfléchis le système d'indexation avec deux entrées, l'entrée des mots-clés, etc., que dans un tel logiciel, c'est pas si long. Effectivement, une fois qu'on connaît son langage, et une fois qu'on s'est dit, bon, pour tel lot d'images, je vais utiliser tel index, tel thésaurus, tel... Voilà. On peut faire des indexations par lot. Ça se fait très bien avec les outils. Donc ça, c'est pas tellement ça qui est long. C'est de se décider sur est-ce que j'indexe en rameau aussi, etc. Qu'est-ce qu'on met comme machine derrière tout ça pour qu'un résultat. Et puis les taxonomies permettent du coup de constituer moins finalement des clés, des indexations qu'un truc qui m'est apparu au bout d'un moment. C'est presque des invitations à suivre un chemin ou une clé pour aller en promenade, aller découvrir la grosse masse de photos qui sera derrière. C'est-à-dire qu'effectivement, une photo peut, à la limite, répondre à 5-6 clés d'entrée qui sont, si possible, problématisées. Parce qu'on est tombé devant cette affaire-là, c'est que par rapport à notre public qui est de spécialistes, on va dire, ou de chercheurs, ou même un public étudiant, évidemment, par exemple, Habitat et Vie sociale, ou Rénovation des grands ensembles, on va chercher des photos là-dessus. Or, c'est pas l'image. Moi, si je décris... Alors, par exemple, j'ai une base de 6500 photos sur Lyon, la ville ordinaire telle qu'elle se renouvelle sur elle-même, entre 70 et 90. Un chercheur, une thèse, c'est le corpus de thèse. Donc ça nous intéressait au premier chef. Et en fait, si on se dit j'indexe avec ce que je vois, c'est une maison ordinaire, bâti ordinaire, hangar ordinaire. Voilà, c'est pas les bâtiments. Donc, ce qu'on voit à l'image est pas si évident. Donc, en fait, je pense que pour notre cas, c'était très fructueux d'avoir les deux types d'outils. C'est-à-dire qu'on a des langages structurés, des langages y compris avancés, spécialisés. On a aussi Rameau,
qui vient de Rameau, par exemple.
Le langage général des bibliothèques, et on a les rubriques.
Rameau, est-ce que c'était très utile pour vous?
Moi, je trouve plein de mots, oui. Je trouve plein de mots, oui.
Ah oui? Parce que c'est tellement...
Parce que vous êtes documentaliste.
Non, mais après...
Non, mais c'est tellement vaste, puis c'est pas spécialisé.
C'est très vaste, oui. Mais alors, la question, c'est que cette photothèque est prévue pour héberger un certain nombre de bases, qui sont toutes spécialisées. Mais ensuite, il y a aussi une recherche générale qui est possible. À travers toutes les bases. Et cette recherche générale, à travers toutes les bases, sera forcément moins spécialisée. Et du coup, il faut aussi que je trouve de quoi lui permettre de fonctionner. Donc on est aussi dans une problématique plus généraliste.
Vous n'avez pas fait votre propre vocabulaire?
J'évite à 100%, c'est ce qu'on m'a dit pendant toutes mes études.
Oui, je peux comprendre.
Mais sinon, pensez aux recherches de Bruno Bachimon, Alina. Vous avez dû
oui, je connais un peu.
Voir ce qu'il fait. Donc voilà, après, c'est des questions de recherche de forme. Et sinon, dernière chose, si je peux me permettre, il y a un outil assez étrange, assez extraordinaire, qui fonctionne au musée de la photo de Chalon. Est-ce que vous avez peut-être possibilité, si vous êtes en France quelque temps?
J'écoute.
Alors, le directeur... Le directeur, c'est François Cheval, et il a mis ce système en fonctionnement dans son musée, et c'est donc le grand public qui a une sorte de bureau, hein, où on peut effectivement faire des choix, mais parmi des myriades et des myriades d'images. Il l'a mis en fonctionnement il y a 3 ans aux rencontres photographiques d'Arles, et vraiment c'était complètement magique, et je ne sais pas comment ça marche. Mais je me suis dit, ça c'est complètement novateur. Si vous voulez contacter François Cheval, qui est directeur du musée de Chalon, je pense que vous aurez les infos. Et là, je pense que c'est complètement révolutionnaire par rapport à la démarche documentaire, bibliothéconomique et tout ce qu'on connaît. Et là, je ne sais pas quels algorithmes, mais je pense que c'est des images qui s'entrochent par différents aspects. Et dans mon souvenir, justement, cette machine tenait compte des choix progressifs.
D'accord.
Il me semble, mais ça me paraît quelque chose de complètement incroyable.
Merci.
Merci.
Il va falloir qu'on s'arrête là, pardon, parce qu'on enchaîne pour Raphaël.
Ah, merci.
Merci.
Vous connaissez le problème de... Ah oui.